Et l'invité du grand entretien du 7-9 ce matin est philosophe, spécialiste de l'environnement, longtemps président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, l'ex-fondation Nicolas Hulot, dans une semaine marquée par le mouvement des Gilets jaunes, par le retour de Nicolas Hulot hier soir à la télévision et à la veille de la COP24. Je suis très heureux de vous accueillir, Dominique Bourg, bonjour.
Merci Nicolas.
Vous êtes bienvenue sur Inter, vous êtes proche de Nicolas Hulot, vos travaux l'ont accompagné, nourri, vous êtes souvent intervenu pour le défendre ou l'encourager à aller plus loin quand il était ministre. Vous étiez hier soir parmi ses proches dans le public de l'émission politique. On a retrouvé hier soir à la télévision le Nicolas Hulot qu'on a toujours connu. Pourquoi n'était-il pas ou n'était-il plus aussi passionné et convaincant quand il était ministre ?
Alors, aussi passionné il était, aussi convaincant quand vous devez prendre et assumer des décisions qui effectivement font toujours des heureux et des malheureux par définition, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de susciter une très large adhésion. Et puis surtout, en quelque sorte, il était un peu à contre-emploi, très mal à l'aise. Et effectivement, exercer les fonctions où on est contrecarré tous les jours, on n'arrive à rien faire avancer alors qu'on a une conscience très aiguë de la situation, c'est vous placer dans un contexte de dissonance cognitive maximale. Et dans son cas, je pense que j'ai rarement vu quelqu'un qui avait vécu cette situation.
Il a encaissé comme un fou. La contradiction intime, conceptuelle, politique, avant de ne plus pouvoir la gérer.
Et c'est ce qu'il a fait. Il a fini par exploser.
C'était un formidable défenseur de la nature avant d'entrer au gouvernement. Au gouvernement, donc, il a appris les petits pas, les couleuvres, les contradictions. Que peut-il, que va-t-il, que doit-il faire aujourd'hui organiser en quelque sorte le travail de la société civile, c'est ça ce qu'il doit faire.
En tout cas, c'est ce qu'il a dit, et je trouve que c'est très très important. Si vous voulez, les partis politiques c'est une chose, mais on a vraiment besoin à l'arrière-plan, et notamment sur les questions écologiques sur lesquelles j'imagine on va revenir, d'un véritable mouvement citoyen, d'un laboratoire d'idées, d'un laboratoire d'expériences, d'un lieu où on peut débattre et on peut éprouver des idées et puis nourrir justement derrière, à l'aval, les formations politiques. Elles ont besoin de ça. Elles ont été réduites aujourd'hui à des écuries sans programme, avec des personnalités faites en général assez étroites, et la vie politique ne peut pas continuer de cette manière.
Alors, une question personnelle, pourquoi quittez-vous les fonctions que vous avez longtemps occupées au conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, aujourd'hui Fondation pour la Nature et l'Homme ?
Mais tout simplement parce que je vais moi-même m'engager en politique, et c'est une fondation apolitique. Et donc, je ne peux pas continuer à exercer cette fonction.
Vous entrez en politique, Dominique Bourg. Et pour quelle raison ? Ben oui, tout arrive. Je pensais recevoir un philosophe. C'est pas contradictoire.
Alors, c'est surtout pas contradictoire.
Mais je pensais recevoir un philosophe ce matin de l'environnement. Expliquez-nous, vous allez faire quoi ?
Je vais m'engager aux côtés de Delphine Batteau, qui va publier début janvier un manifeste pour une écologie intégrale. C'est un livre extrêmement charpenté. Et enfin, Dieu merci, pour la première fois, on a une personnalité politique, quelqu'un qui a exercé le pouvoir, qui était ministre de l'Environnement sous François Hollande et congédié. Ce qui est en fait, si vous voulez, un saut d'authenticité absolument génial. Tout simplement parce qu'elle croyait vraiment à la cause environnementale. Et si vous voulez, une des raisons pour lesquelles on ne réussit jamais, c'est que ça passe toujours au second plan. L'écologie intégrale, c'est effectivement l'écologie, ça concerne l'habitabilité de la planète. Si on la compromet, passez-moi l'expression, mais on va tous crever. Donc on met ça en premier et à partir de là, on décline le reste.
Elle va se présenter, et vous aussi, puisque vous entrez en politique, vous allez faire une liste aux européennes.
Probablement, toutes les choses sont encore pas définies, mais très probablement, oui, il y aura une liste dans le cadre des élections européennes. Les élections européennes, ce sont pas les élections nationales. Ce sont des élections où on peut vraiment débattre d'idées, où on peut essayer de faire entrer dans l'espace politique des idées nouvelles et surtout une restructuration nouvelle. Hein, ce que propose le livre de Delphine, qui va sortir donc encore une fois en janvier, c'est une recomposition du paysage politique. Parce qu'on le voit bien d'ailleurs avec cette histoire de gilets jaunes, les aspects droite-gauche, écoutez, c'est plus totalement notre affaire aujourd'hui.
Une dernière question factuelle, l'étiquette serait quoi ? Génération écologie ?
C'est Génération écologie, elle est présidente de Génération écologie. Donc on n'ajoute pas un parti, il existe depuis des décennies.
Dominique Bourg, Allons-y alors, les gilets jaunes. On a posé la question à tous nos invités cette semaine, car le phénomène nous semble inédit. Que pensez-vous de ce mouvement parti sur une contestation de la hausse des prix du carburant en raison notamment de la taxe carbone? Manifestation, blocage, émeute à La Réunion, on verra demain ce qui se passe à Paris. Vous comprenez ce mouvement?
Oui et non. Je l'apprécie pas beaucoup parce que déjà dire un mouvement c'est beaucoup trop dire. Il n'y a pas un mouvement. On voit par exemple, j'ai vu une vidéo où on voit des bonnes sœurs arrêtées qui commencent à danser. Là, on est dans une espèce de fête, de côté bon enfant. Ça c'est hyper sympathique. De l'autre côté, vous avez des gens qui vont filtrer les migrants, qui tiennent des propos homophobes, qui prennent d'assaut les voitures, des fascisants. Tout simplement.
Fascisant.
Ah oui, alors dans ce cas-là, oui, pour moi,
les
ce
gilets
sont
jaunes.
Dans les gilets jaunes, il y a manifestement des gens qui ont des comportements homophobes, racistes, violents, et puis en plus une espèce d'accaparation ridicule du peuple. Écoutez, le peuple, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous avez des gens avec des intérêts, des difficultés différentes. Par exemple, le personnage qu'on a entendu hier en face de Nicolas Hulot, écoutez, un agent immobilier, excusez-moi, mais c'est sans doute pas celui qui est franchement dans les difficultés les plus profondes. Il est là pour capter quelque chose, pour en profiter, qui a un discours, à mon avis, qui est assez baroque. Donc non, c'est un mouvement, c'est des mouvements diffractés, très différents, porteurs d'enjeux, de valeurs, d'intérêts qui vont dans tous les sens. Et c'est bien pourquoi il est extrêmement problématique. Mais continuer à dire « je suis le peuple », c'est d'un ridicule total. Il n'existe pas le peuple, il existe des gens avec des sensibilités, des intérêts, des revenus, des cultures, des assises dans l'existence, des spiritualités, que sais-je, complètement différentes. Et le seul moment où quelque chose comme le peuple existe, c'est quand il y a des élections. Et là, vous avez une majorité, une minorité, vous avez des inscrits, des non-inscrits, vous avez des votes blancs. Il n'y a pas le peuple. Ça n'existe pas. C'est un fantasme.
On cherche tous, journalistes, mais aussi évidemment hommes et femmes politiques, à caractériser ce mouvement. Le mot poujadiste a surgi. Vous le partagez. Vous allez donc encore plus loin quand vous dites fascisant. Vous dites également.
Certains. J'ai dit pas dit tout le monde.
Oui,
certains. Attention.
Dans le
dit bon enfant par ailleurs.
Oui. Dans
le contraste entre tout ça.
Dans le quotidien AOC sur Internet, vous parlez de leurs appels grotesques à la démission d'un président de la République pour quelques centimes d'augmentation du litre du carburant. Ces quelques centimes peuvent coûter cher à certains, Dominique Bourg.
Mais bien sûr, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Si vous voulez, on va prendre la question depuis le fond, parce que sinon on comprend pas. Et c'est toute la difficulté qu'il y a à parler d'écologie. Parler d'écologie, c'est partie de comportement. Et faire de l'écologie, c'est vouloir changer les comportements. Alors pourquoi changer les comportements? Surtout dans une société libérale, si vous ne tuez pas, vous ne violez pas, crime majeur, ou si vous ne volez pas, je veux dire, en général, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bah, ok, ouais, mais ça change. À 8 milliards sur Terre, et vous avez beau être pauvre, être dans la mouise, et ça, évidemment, je le comprends, bien sûr, c'est évident, bah, si vous êtes, par les circonstances, contraint à faire 40 km par jour dans une vieille guimbarde, si vous êtes un précaire énergétique, c'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens d'isoler votre maison ou votre appartement, etc. Bien, tout pauvre que vous êtes, vous allez émettre des tonnes de CO2. Quand vous allez acheter, si vous le pouvez, et on espère que c'est quand même le cas, un ordinateur, même le moins cher possible, derrière, vous avez des tonnes de matière. C'est ça le problème aujourd'hui. Alors,
donc même si c'est dur à entendre, il n'y a pas d'excuse de pauvreté, c'est ça ce que vous dites?
Non, il faut prendre les choses avec étage. Bien sûr qu'il y a une excuse de pauvreté, bien évidemment. Ça n'a aucun sens de demander à quelqu'un qui peut même pas finir son mois de payer plus. On est complètement d'accord avec là-dessus. Mais attendez, justement, le problème, comment vous faites? Si vous voulez changer les comportements, vous avez la conscience. Nicolas, c'est très sympa la conscience, mais vous voyez bien que son efficacité est quand même relativement réduite au sein du genre humain. Même quand on vous met sur votre paquet de cigarettes que ça vous tue en fumant, vous fumez quand même. Bon, donc il y a la conscience. Ensuite, après, il y a les prix et il y a la loi qui interdit. Donc, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous pouvez jouer sur ces trois instruments. C'est important quand vous jouez sur la loi ou quand vous jouez sur les prix, qu'il y ait la conscience, c'est-à-dire qu'on sache pourquoi. Alors là, ça commence déjà mal. Parce qu'on a une politique fiscale écologique du gouvernement qui n'est pas lisible. On fait une chose, on fait son contraire. Vous êtes dans la mouise, on vous dit tu vas payer plus cher ton litre d'essence, on taxe pas le kérosène, on permet à Total d'aller forer en plus, etc.
Illisible.
Ça devient illisible.
Et incompréhensible.
Et puis, il y a un autre problème. Si vous voulez, en fait, une société écologique, ça voudrait dire, puisqu'on va devoir changer nos comportements, si dans une société, vous avez une latitude financière qui est complètement ouverte, avec des gens richissimes et des gens pauvres, comment vous jouez sur le signal prix ? Donc, la difficulté de l'écologie, c'est que dans une société relativement inégalitaire, alors il y a bien pire que la France et l'Europe, mais même là, nous le sommes aussi, et c'est un peu les mauvais signaux qui ont été donnés par ce gouvernement au début, c'est très, très difficile de jouer sur le signal prix. Donc, pour pouvoir le faire, il faudrait le faire au moins à pression constante. Et ceux qui sont dans la mise, bien sûr que je ne les condamne pas, c'est évident. Je leur dis, vous faites ça, vous continuez. Enfin, vous faites comme un type qui fume. Vous détruisez vos propres intérêts. Mais c'est sûr que si on vous laisse tout seul face à ça, ça ne peut pas marcher. Il faut les aider.
Pourquoi dans ce même article de la revue AOC, Dominique Bourg, écrivez-vous que promettre aux gens qui sont dans la mouise, pour reprendre votre expression, une aide de 4000 euros pour acheter une voiture d'occasion plus récente et moins gourmande, à tout de la concession électorale stupide?
Oui, alors je suis peut-être allé un peu loin, parce qu'il y a un aspect sanitaire qui est intéressant. Ce qu'ils vont émettre moins en termes d'émissions de CO2, ça ne va quand même pas être grand-chose dans ce cas-là. Pour moi, la solution n'est pas là. La solution, c'est d'organiser les transports publics. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, j'habite un pays, la Suisse, on peut aller n'importe où. Je n'ai pas de voiture. On peut aller n'importe où en transport public. La France est un pays qui s'est organisé dans les dernières décennies totalement autour de la voiture. Et puis, considérons bien les choses. Il y a 40 ans, vous n'aviez personne avec un bas salaire qui allait vivre à 40 km de son lieu de travail.
Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire que simplement, c'est des choses qu'il va falloir reprendre. Il faut trouver des solutions. Ça veut simplement dire qu'il y a 40 ans, le pouvoir d'achat, évidemment, des gens était encore différent. Quand vous étiez ouvrier, vous habitiez à côté de votre usine et puis vous y alliez à vélo. Bon, les problèmes n'étaient pas les mêmes. Bon, et je ne vous dis pas qu'on va revenir à ça, c'est complètement idiot. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, on a laissé se déployer quelque chose qui finalement va finir par être insupportable pour les gens eux-mêmes. Parce que on continue à disposer d'une très large disponibilité énergétique. Alors, s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que ça va finir dans la décennie ou les deux décennies qui viennent. Il suffit de simplement de voir le taux de retour sur investissement énergétique quand aujourd'hui on va chercher un baril de pétrole. Autrefois, j'en investissais un, j'en récupérais 100. Maintenant, j'en investis un dans les meilleurs gisements et j'en récupère 20.
Oui, donc le prix est...
Ça n'a plus rien à voir. Et je suis désolé, c'est pas Le Pen ou Mélenchon qui vont remettre du pétrole dans les sous-sols.
Mais alors, en revanche, dernière question sur ce sujet. Vous dites « chiche » à la proposition que vous formulez vous-même, ce qui est quand même plutôt cohérent, d'instaurer un impôt exceptionnel sur la fortune entièrement dédié à aider l'État à lutter écologiquement contre la précarité énergétique. Expliquez-nous le
dispositif. Évidemment, la précarité énergétique, c'est énorme. Il y a des gens qui ont du mal à se chauffer, qui ne peuvent pas avoir des pièces suffisamment chauffées pour leurs enfants, qui vivent dans des passoires énergétiques. Vous avez effectivement des gens qui vont faire 40 km matin, 40 km le soir, tout seul dans une vieille guimbarde. Et il ne s'agit pas de les condamner. J'espère que vous m'avez bien compris. Comment on peut les aider? C'est ça la vraie question. Comment on les aide? Comment on met fin à cette situation?
Donc un ISF vert.
Un ISF vert, oui. Voilà, c'est ce que je propose.
Ce mouvement dans son ensemble, ce qu'il a déclenché comme réaction politique, son traitement médiatique aussi, on peut y réfléchir. Toute cette crise n'a-t-elle pas fait reculer, même un petit peu, le consensus écologique, Dominique Bourg?
Alors, c'est pas sûr. Enfin, la question est très, très, très ennuyeuse. Moi, en écoutant un téléphone sonne, là, justement, sur votre antenne, c'était pas évident. Il y a beaucoup de gens, au contraire, qui disaient, on est très conscients, ça nous ennuie, etc. Et mettez-vous à leur place. Ils sont dans l'obligation d'agir de la sorte. C'est pour ça qu'ils se mettent en colère et qu'ils trouvent ça insupportable. Ils arrivent pas à finir leur fin de mois. On leur recolle une taxe. Bien sûr, on peut comprendre. Mais en même temps, si je joue pas sur le prix, ils vont jamais sortir de cette situation. Donc, voilà la difficulté dans laquelle on est, et c'est pourquoi je vous dis, une société idéalement écologique, elle n'existera jamais, mais c'est une société où vous auriez des écarts de revenus très resserrés. Et là, le problème n'est plus le même. Essayer de changer nos comportements avec les seuls instruments dont on a à disposition, je les ai rappelés tout à l'heure, c'est pas une chose simple, c'est difficile. Alors, qu'à un moment donné, on se mette en colère, mais je peux très bien le comprendre, mais la colère n'est pas une fin en soi. Après, il faut se remettre ensemble, autour d'une table, et puis essayer de voir comment on trouve la solution pour aider ceux qui sont dans cette situation à sortir de la nasse dans laquelle ils ont en partie été enfermés.
Je vais formuler les choses autrement. Pensiez-vous, Dominique Bourg, dans une démocratie comme la nôtre, que le changement de mode de vie, le fait d'aller vers d'autres façons de consommer, de se déplacer, le changement des habitudes susciterait ce genre de crise ?
Ben, si vous voulez...
Est-ce que c'est pas une première? Est-ce qu'on va pas le voir un peu partout?
Si. C'est, si vous voulez, c'est le cheminement normal par lequel l'écologie ne pouvait que passer dans des sociétés où vous avez des écarts de revenus énormes et vous avez une part de la population qui est dans une immense difficulté. Alors il y a pire. Hein, attention, il suffit d'aller dans d'autres pays. Et donc faisons attention aussi à ne pas tout casser. Ça, c'est très important. Mais donc, c'était sûr que l'écologie allait être confrontée à ce genre de difficultés.
Alors, c'est pour ça que le moment est intéressant et inédit et inquiétant aussi. Et
justement, c'est pour ça qu'il faut en avoir une bonne. C'est pour ça qu'il faut en avoir une bonne lecture. Et maintenant, il est clair que des mesures écologiques qui ne s'accompagnent pas de mesures sociales, qui ne conduisent pas à un rééquilibrage du degré d'inégalité que l'on connaît aujourd'hui, on n'y arrivera pas, ça ne peut pas se faire. L'écologie intégrale, c'est aussi et nécessairement une écologie sociale. Pour faire changer les gens, il faut à la fois qu'ils comprennent pourquoi ils doivent changer. L'information est très importante. Et ensuite, il faut qu'au-delà de la légitimité par rapport, j'aurais presque envie de dire la légitimité physique du problème, il faut qu'ils en comprennent la légitimité sociale en termes de justice. On peut pas me demander ça à moi dans la mouise où je suis. Vous m'en demandez trop. Si je ne réponds pas à ça, si les politiques ne savent pas répondre à ça, on n'arrivera à rien changer. Que la chose soit claire.
Dialogue avec les auditeurs de France Inter. Bonjour Cédric et bienvenue.
Bonjour, merci. Alors, moi, ma question était, aujourd'hui, je travaille à 50 km de chez moi, je suis à la campagne. Je fais 50 km aller-retour tous les jours. J'ai pas les moyens parce que les banques m'en refusent le prêt pour m'acheter une Zoé, par exemple. Et même la Zoé ne tiendrait sans doute pas à la charge pour l'aller-retour. Hein. Donc, je voulais savoir concrètement aujourd'hui, avec 1 200 euros, comment je fais pour changer ma façon de faire, puisqu'il n'y a plus de services publics ou très peu à la campagne par rapport en ville. Donc, le problème a été pris de mon point de vue à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de donner les moyens de faire autrement aux gens d'abord, on les punit en augmentant la fiscalité, plutôt que d'avoir donné d'abord les moyens de faire autrement. Et j'ajouterais que les gens ont parfaitement bien compris, on n'est pas anti-écologiste, ni anti-écologie, on a très bien compris ce qui se passait. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens financiers de faire autrement. Donc aujourd'hui, monsieur, les discours sont très beaux, mais donnez-moi concrètement une façon de faire autrement.
Merci beaucoup Cédric pour cette intervention. Je donne la parole également à Denis, avant de la rendre à Dominique Bourg. Bonjour Denis.
Oui, bonjour à France Inter. Voilà, j'ai bien écouté les propos de votre intervenant et je suis assez indigné sur justement son intervention.
Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'il stigmatise les pauvres, mais entre guillemets, j'aimerais bien connaître l'empreinte de CO2 de votre intervenant, ça c'est le premier point. J'ai écouté attentivement Nicolas Hulot, qui était redevenu militant. C'était extrêmement intéressant. Il se montrait lorsqu'il était ministre sur le site de Bure, par exemple, où il évoquait que c'était finalement la moins mauvaise des solutions. Et là, redevenu militant, il trouve que le site de Bure est vraiment une hérésie totale pour les générations à venir.
Donc, merci Denis.
À un moment donné, lorsqu'on est ministre, on fait bouger les lignes, lorsqu'on a un véritable courage et on redevient pas militant par la suite, lorsque finalement on redevient quelqu'un qui est financé par des sponsors peu recommandables.
Merci Denis pour cette question sur l'empreinte carbone de notre invité Dominique Bourg.
Ah ben je vais répondre. Hein,
alors
très
répondez à Denis pour commencer et Cédric après.
Oui, alors j'ai commencé par répondre à Denis. Je n'ai pas de voiture, mais j'habite dans un pays qui me le permet. J'habite dans 60 mètres carrés. Je mange peu de viande. J'essaie de faire attention à un certain nombre de choses. Donc, je ne pense pas que dans le genre empreinte écologique, je sois dans la pire des situations possibles. Maintenant, je crois que... C'est Denis, hein. Denis, oui. N'a pas totalement entendu ce que j'ai dit. Il a sélectionné. J'ai bien dit, et du coup je réponds aussi avec Cédric, alors je comprends tout à fait ce qu'il dit. Alors justement, Cédric, c'était ce genre de propos auquel je faisais allusion tout à l'heure. C'est-à-dire des gens qui sont dans la mouise, qui n'ont pas les moyens de faire face à la situation, qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre le type de voiture qu'ils ont pour aller bosser, et qui n'ont pas les conditions de changer. C'est précisément ça qui était la cible de mon discours. Et je le répète...
Vous n'êtes pas Marie-Antoinette, Dominique Bourg. C'est ça ce que non, vous voulez dire. Ils ne peuvent pas prendre le bus, ils ne peuvent pas
Nicolas,
prendre le train, qu'ils payent le diesel. C'est pas ça.
Non,
hein.
Pas du tout. Et non seulement je ne suis pas Marie-Antoinette, mais j'aimerais bien non plus ne pas être Louis XVI. Si
oui,
c'est dans les deux cas,
ce serait mieux pour
fin
vous.
La n'est pas très heureuse.
À court
non,
terme.
Je crois... Alors, je répète ce que j'ai dit. Nous sommes dans l'obligation de changer nos comportements, le comportement des plus riches et des plus pauvres. Pour les plus riches, ça reste une question morale. Mmh. Pour les plus pauvres, ça n'est pas une question morale, c'est une question de moyens. Et la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui ne donne pas les moyens. Et c'est cette absence de moyens qui empêche l'écologisation de la société.
On retourne au standard. Jean-Pierre, bonjour et bienvenue.
Bonjour et merci France Inter pour toutes les émissions interactives. Voilà, je voulais poser la question suivante à Dominique Bourg. Hier, j'étais très intéressé par l'intervention de Nicolas Hulot. Et il a prononcé quelque chose, une phrase qui m'a interpellé. Un travail qu'il fait avec Dominique Bourg pour la troisième chambre. Est-ce qu'on peut avoir plus de précisions sur cet aspect-là?
Troisième chambre, merci Jean-Pierre pour cette question. Dominique Bourg vous répond.
Oui, alors je vais aller vite hein, parce que c'est quand même une histoire compliquée. Mais c'est vrai que l'Assemblée nationale, le Sénat, par définition, et compte tenu de leur fonction, sont obligés de s'occuper du court terme. En général, ils ont de très mauvaises connaissances sur le long terme. Une ignorance du fait que les enjeux de long terme se décident au court terme. Et le jeu électoral, leur mandant même... Ben effectivement, on le voit d'ailleurs avec l'histoire des Gilets jaunes. Si jamais ils les prennent mal à l'occurrence certaines décisions, on va aller à l'encontre. Donc l'idée, c'était d'avoir une chambre spécialisée dans le long terme, mais une chambre qui ne soit pas une chambre technocratique. Effectivement, elle s'appuierait sur une espèce de GIEC élargi, mais enfin, j'ai pas le temps de définir ça. Mais elle aurait aussi pour fonction d'essayer d'aller dégoter sur les territoires les initiatives d'un certain nombre de citoyens qui aujourd'hui invente des modes de vie, invente des façons différentes de faire, etc.
Donc, Assemblée nationale, Sénat et cette troisième chambre qui pourrait accueillir, on voit bien qu'il y a une difficulté aujourd'hui du point de vue de l'exécutif, pour trouver le bon format pour sortir de cette crise. Non, pas de Grenelle environnemental et social. On posait la question à François de Rugy, conférence de consensus, on sait pas, on ne trouve pas la forme. Ça pourrait en être une, la troisième chambre.
Alors, c'est une, si vous voulez. C'est-à-dire que, j'ai trouvé l'expression Nicolas très joli, il a dit la démocratie est fatiguée, elle est usée. Et effectivement, on voit bien aujourd'hui n'importe qui dans la rue dit « faut dissoudre l'Assemblée nationale, il faut virer le président ». Enfin, écoutez, là, ça va plus, quoi. On a un problème de dysfonctionnement de nos institutions, elles ne percolent plus dans l'État, dans la société, elles ne sont plus comprises, et puis il y a cette espèce de mouvement de colère auquel on est confronté. Donc une des réponses, c'est pas la seule, mais une des réponses possibles, c'est de revivifier la démocratie. Et ça, je crois que c'est une urgence.
Dominique Bourg, merci beaucoup d'avoir été au micro de France Inter. La semaine prochaine, Inter vous proposera une semaine spéciale intitulée « Agir pour la planète » à l'occasion de la 24e COP, pardon. De nombreux rendez-vous toute la semaine, à la fois dans les programmes et dans les tranches info. François Hollande sera l'invité du grand entretien de la matinale.